Ce matin, il sera aussi question des personnes qui luttaient contre le sommeil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En dehors des sermons, bien sûr, à d'autres moments. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vraiment lutter? Et vous ne savez même plus quand vous avez arrêté de lutter. C'est vraiment très difficile lorsqu'on est fatigué. Parfois, ça peut être un coup de barre, mais c'est vraiment difficile de lutter contre le sommeil. Et vous voyez ça aussi dans les films, lorsque des personnes, le héros, il ne doit pas s'endormir parce qu'on lui a assigné une tâche très importante et il s'endorme. Forcément, la catastrophe arrive. Les personnes dont je vous parlais ce matin, ils ont traversé la même chose. Ils luttaient contre le sommeil de toutes leurs forces. Mais s'ils n'avaient rien à faire, le sommeil était arrivé. Il était nuit, tard. C'était impossible de le résister. Ils étaient pourtant habitués à des longues veillées, mais là, c'était trop. À moitié endormis, les disciples, car je parle des disciples, ils entendaient Jésus quelque part, pas trop loin, prier. Un peu comme ça, vous savez, quand vous entendez à moitié. Et Jésus disait, si c'est possible, Père, non, je ne veux pas. Je ne veux pas de cette coupe. Ils ne comprenaient pas les disciples. La voix, comme ça, entrecoupée, continuée, mais Père, je ne veux pas. Je ne veux pas de cette coupe. Y aurait-il pas moyen de ne pas la boire? Les disciples savaient que parfois Jésus parlait exprès pour que les autres ne comprennent pas. Certaines paraboles, il a même dit, voilà, je parle en parabole pour qu'on ne comprenne pas. Mais là, à moitié endormis, même s'ils leur avaient demandé leur prénom, ils n'auraient pas compris la question. Et la voix de Jésus qui continuait, je ne veux pas, Père, mais non ma volonté. Je ne veux pas, mais que ta volonté soit faite, Père. Mais depuis désormais presque 3 ans et demi, les disciples arpentaient avec Jésus les chemins de la Galilée et de la Judée. Les premiers à l'avoir suivi, Jean et Jacques, avaient passé la première nuit avec lui à la Belle Étoile. Un peu comme les scouts aiment beaucoup faire de nos jours. Les disciples avec Jésus, ils étaient toujours en mouvement. Ils ne s'arrêtaient jamais. Et avec lui, ils avaient vécu des hauts et des bas. Mais cette nuit-là, c'était différent. De quelle nuit s'agissait-il? Il venait de célébrer la Pâque. Et la Pâque était une fête, était une célébration qui était supposée finir dans la joie. Pourquoi? Pourquoi dans la joie? Parce qu'ils se rappelaient que le Seigneur les avait délivrés d'Égypte. Ils étaient devenus un peuple, un véritable peuple, grâce à la délivrance divine. La Pâque rappelle les moments fondateurs du peuple d'Israël. Et donc, la Pâque, oui, bien sûr, c'est un moment solennel, mais qui implique un message de joie profond. Et donc, à la fin, Seigneur, tu nous as délivrés, merci. Merci, Seigneur, d'avoir été si puissant vis-à-vis de l'Égypte. Et quelque part, chaque fois qu'ils célébraient la Pâque, c'était une façon de dire, notre Dieu, il est toujours capable de nous délivrer de n'importe quelle nation. Même si honnêtement, à l'époque des disciples, le peuple d'Israël se demandait, oui, d'accord, mais ça serait peut-être temps qu'il le fasse à nouveau. Parce que les Romains, ce n'était pas facile non plus. Les disciples, comme le reste du peuple, attendaient la libération. Ils se demandaient Quand va-t-il arriver le libérateur, le Messie? En ce qui concerne le disciple, comme d'autres groupes de personnes l'avaient fait avec d'autres personnes, les disciples avaient choisi leur Messie. Ou plutôt le contraire. Quelqu'un les avait choisis. Ils étaient parvenus à la conviction que cette personne-là, Jésus de Nazareth, était le véritable Messie. Et pour eux, profondément convaincus, Jésus était celui qui allait les délivrer de l'oppression romaine. Persuadés, ils le suivaient partout. Vivre donc, vous comprenez, vivre la Pâque avec Jésus, manger cet agneau, qu'on appelait lui aussi la Pâque, manger cet agneau qui symbolisait la délivrance à côté du Messie qui, selon eux, allait les délivrer des Romains, ça devait être quelque chose d'électrifiant. Quelque part, comme s'il se disait, je suis en train non seulement de manger le symbole et le rappel de l'histoire, mais quelque part, je suis juste à côté de celui qui va réactualiser les prouesses du Seigneur à notre faveur et qui va nous délivrer. C'est lui notre Messie, c'est lui l'agneau de la délivrance, mais il voyait plus comme un lion que comme un agneau. Cela va de soi. Manger le symbole de la délivrance à côté du libérateur. Formidable! Mais cette nuit-là, Jésus était quand même un peu bizarre, il faut le dire. Cette nuit-là, il s'est comporté plutôt comme un esclave, pas comme un conquérant. Il a lavé les pieds des disciples. Il a demandé de suivre son exemple. Si vous voulez être les plus grands, il faut devenir les plus petits. Il faut s'asservir. C'est quand même fort du café de dire cela à des personnes qui sont déjà asservies par la puissance romaine. Tu n'es pas simplement asservi, il faut t'asservir. Cette nuit-là, je suis un peu bizarre. Il n'avait pas le cœur aux réjouissances. Il n'avait pas l'air de vouloir faire la fête. Ce qu'il voulait, c'était prier. On aurait dit même que c'est un besoin vital pour lui à ce moment-là. Et les disciples étaient habitués à voir Jésus prier. Ils l'avaient vu plusieurs fois s'éloigner et passer toute nuit en prière. Oui, ils savaient. Ils avaient accepté d'ailleurs de le suivre, non seulement comme d'autres personnes, mais de façon particulière. Le jour où il les a appelés, il leur a dit « Devenez mes disciples ». Ce jour-là, ils espéraient la gloire. Ils espéraient la bataille, mais certainement la gloire. La chose qu'ils attendaient le moins, c'est de devoir passer des veillées, des longues veillées de prières, des interminables heures d'attente, alors que tout ce qu'ils voulaient faire, c'était dormir. Et pourtant, les voilà. Cette nuit-là, ils étaient tous en train d'attendre Jésus, qui vient de leur dire, venez prier avec moi. Ce que les disciples ne comprenaient pas cette nuit-là, c'est qu'il n'y avait pas que eux qui s'étaient engagés dans une mission. Parce qu'ils disaient, nous, on est engagés avec Jésus. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Jésus lui-même, lui, il était engagé aussi dans une mission. Il avait accepté d'accomplir une mission pas facile, que les disciples n'allaient pas finir de comprendre qu'après la mort de Jésus. Et encore, cette nuit-là, c'était le point de bascule. Cette nuit-là, tout s'est décidé. Le moment où l'engagement de Jésus vis-à-vis de son Père et vis-à-vis de l'humanité pesait de tout son poids sur ses épaules. Prendre un engagement, c'est relativement facile. les maintenir. Surtout lorsque cela devient difficile, quand cela demande des sacrifices personnels ou quand le résultat est incertain et potentiellement dangereux, ça c'est une autre chose. Qui me le fait faire? Qui n'a pas déjà entendu dans un film une personne qui s'occupe d'une situation et les choses empirent et empirent et empirent, à un moment donné, la personne dit « mais on ne me paye pas assez pour ça ». Vous avez entendu dire cela. Peut-être que vous-même, vous avez déjà dit dans votre vie « je ne suis pas assez payé pour devoir gérer tout ça ». En toute honnêteté, je ne l'ai pas formulé comme ça, mais je l'ai formulé déjà autrement. Mais qui me le fait faire? D'être pasteur. Qui me le fait faire de m'occuper des problèmes qui, finalement, ne sont pas les miens? Ils n'ont qu'à se comporter un adulte, à régler cela tout seul, comme le Seigneur demande. Mais je pense qu'on passe tous par des moments où on se demande, mais qui me le fait faire? Je ne sais pas ce que Jésus, si Jésus s'est demandé c'est ça au Gethsémané cette nuit-là, mais en tout cas, il a dit, Seigneur, je ne veux pas. Si c'est possible, faisons autrement. Mais pas ma volonté, sinon la mienne. Cette nuit-là, je suis quelque part, avec d'autres termes, était sur le point de peut-être se dire, qui me le fait faire, hein? Vous le verrez dans tous les films. Le héros, peu importe la nature du film, le héros ne réussira pas sa mission tout seul. Jamais. Le long du chemin, il sera aidé. Parfois même, et de façon inattendue, par la personne ou le personnage qui est vraiment le boulet de service. Il arrive souvent que dans les films, le boulet de service, ce soit celui qui fasse une chose qui fait que tout le reste, finalement, aille comme il faut. Même Zorro, mais pour les plus petits, peut-être qu'ils voient plus Zorro, moi je regardais encore Zorro à l'époque. Zorro, le justicier solitaire, même lui, il bénéficiait de l'aide des paysans pour réussir ses entreprises. Même les super-héros, Capitaine America, etc., etc., ils doivent se unir pour combattre Thor, par exemple. Ils ne peuvent pas réussir tout seuls. Jésus est sans doute le plus grand héros de tous les temps. Le plus grand héros sur Terre, le plus grand héros intergalactique, mais allons plus loin, le plus grand héros universel, non déplaise à Thor. Et pourtant, même lui, il n'a pas réussi sa mission tout seul. Il n'a pas cherché à réussir sa mission tout seul. La dernière nuit qu'il a passée au Gethsémané, plus que jamais, il avait besoin de ses disciples. Peut-être que nous pourrions même dire, plus que des disciples, il avait besoin de ses amis. Et cette nuit-là, il leur avait dit, « Priez avec moi. » Nous sommes pareils. Nous ne pouvons pas réussir tout seul nos engagements. Personne n'est une île, écrivait le poète John Donne. Vous savez, en tant que responsable animateur de la troupe GIA Tisson Explo, même si nous sommes déjà une belle équipe, nous ne pouvons pas réussir notre mission tout seul. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, parents, de vous, famille, de vous, amis, de vous, Église. Le moment de bascule où tout pourrait chavirer ne manque pas dans le cheminement de l'animation, dans le scoutisme. Et n'importe quel chef de troupe vous le confirmera. On passe tous à ça, de dire, qui me le fait faire? Et pourtant, combien de fois nous avons été sauvés par un mot d'encouragement, par une parole de réconfort, par une main tendue et disposée à nous aider concrètement, pas seulement des paroles. La nuit, au Gethsémané, Jésus n'a pas bénéficié de cette main tendue. La nuit, au Gethsémané, Jésus n'a pas bénéficié de cette bonne parole d'encouragement. Il n'a pas bénéficié de quelqu'un qui puisse prier pour lui ou avec lui. Et pourtant, il a réussi à dire « Non ma volonté, Père, sinon la tienne. » Mais nous ne sommes pas Jésus. Il faut se le dire. Certes, mais cela ne nous empêche pas de croire les paroles de notre chant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ça ne change rien à la réalité. Nous avons besoin de vous, du Seigneur, mais aussi de vous. Les exploits, nous voulons les faire avec vous. Nos jeunes s'engagent aujourd'hui avec le Seigneur. C'est un pas supplémentaire dans leur cheminement vers Jésus. Cheminement qui les amènera, nous on l'espère, on prie pour, cheminement qui les amènera vers un engagement toujours plus profond, plus fort avec le Christ. Nous avons d'ailleurs eu la joie en 2019 de voir plusieurs jeunes de la troupe descendre dans le sceau du baptême. Et nous espérons que cela se répète cette année. Vous pouvez dire amen aussi, hein, ne fût-ce que pour réveiller ceux qui dorment. Quoi qu'il en soit, pour arriver à nos objectifs, pour réussir à rester fidèles à nos principes et pour que les jeunes qui vont s'engager aujourd'hui par leurs promesses, pour qu'ils réussissent à rester fidèles à leur engagement lors des moments difficiles, lors de ce moment où leur conviction sera mise à rude épreuve, ils devront s'appuyer sur nous autres, sur vous. Avec notre aide bienveillante, avec notre soutien inconditionnel, alors les jeunes qui prendront aujourd'hui un engagement vis-à-vis de Dieu apprendront eux aussi à dire « Non ma volonté, Père, mais la tienne. » Et rien que cela, c'est le plus grand et redoutable des exploits. Alors, que cette cérémonie d'engagement ne soit pas que la cérémonie d'engagement de la troupe, mais qu'elle soit aussi la célébration de l'engagement de toute l'Église en faveur de la troupe. Que ce soit l'engagement d'une communauté de foi qui a un objectif commun, qui avance vers le même but, vers une vie pleine avec Jésus, déjà ici et maintenant, même si partiellement, mais pleinement. Dans l'éternité, que ce soit au ciel ou sur la nouvelle terre. Nous allons procéder à la cérémonie d'engagement.